La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus, notre frère et notre maître, pour nous enseigner dans nos voies. Bienvenue à vous toutes et tous dans ce lieu ici à l'Oratoire du Louvre, avec ce matin un parcours particulier que nous avons préparé avec Josué Ferreira, qui est le rabbin invité ce matin à nous partager la parole. Bonjour Josué et bienvenue à toi dans ce lieu. Nous avons la joie d'accueillir Josué depuis hier, puisque hier on avait le brunch libéral où je rappelle que vous êtes toutes et tous les bienvenus. Il n'y a pas besoin de s'inscrire ou de demander si on peut venir. Vous êtes toutes et tous les bienvenus dans ces séances. Josué nous a donné hier matin une très belle conférence sur la question de l'épreuve dans nos vies et la place de Dieu dans ces épreuves, comment on peut parler de cette question de l'épreuve tout en parlant de la présence de Dieu. Merci Josué d'être là avec nous. Je vais te laisser la parole peut-être pour dire toi-même ton bonjour à cette assemblée nombreuse ce matin. Et puis aussi je voudrais saluer celles et ceux qui nous suivent par internet et qui sont avec nous ce matin avec l'envie de rejoindre une communauté quand bien même physiquement ils ne pourraient pas être avec nous. Bienvenue et très bon culte à vous aussi qui êtes en ligne.
Bonjour à tout le monde et merci pour votre accueil à l'oratoire. C'est un plaisir de venir partager ces moments avec vous et donc aussi de tisser des ponts et des liens entre nos diverses traditions qui ont certes leurs différences, mais finalement qui se rejoignent sous un même éternel finalement. Donc très très bon culte à tout le monde.
Merci Josué. Josué fait partie du judaïsme libéral et il fait partie de deux, il est attaché à deux communautés, une à Montpellier et une à Genève, et nous saluons particulièrement les amis de Montpellier et de Genève qui font partie de la communauté de Josué et qui nous regardent peut-être ce matin en direct. Voilà. Je vous invite maintenant à entrer dans ce temps de culte. Je voudrais rappeler que ce matin, évidemment, pour ce moment de culte, j'ai été aussi très touchée et très inspirée pour le choix des prières par l'anniversaire de l'ouverture du camp d'Auschwitz que nous avons rappelé au début de cette semaine et dont j'ai pensé qu'il fallait aussi faire mémoire avec toute l'espérance que nous pouvons mettre dans notre foi en l'être humain, quand bien même parfois il nous décevrait infiniment. Je voudrais donc rappeler ce moment important qui évidemment inspirera une partie de ce culte. Mais réjouissons-nous d'être ensemble dans la paix, dans l'humanité et dans la foi, et nous pouvons chanter ensemble le premier répond du au début du psautier. Vous avez tous les réponds de la liturgie pour celles et ceux qui passent la porte de ce temple pour la première fois ce matin. Vous pouvez suivre les chants qui sont au début du psautier. Nous louons le Seigneur et ce matin nous louerons Dieu avec le psaume 121 que Josué a choisi pour nous et que nous allons lire ensemble, dire ensemble en français et en hébreu. Je vais juste sortir un deuxième micro pour Josué pour que ce soit plus facile. Voilà, nous serons plus confortables pour dire ensemble ce psaume 121. Je vous invite donc à la prière de louange ensemble. Cantique pour les montées.
Shir la ma'alot.
Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours?
Esa aynai el arim, me ayn yavo ezri.
Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
Ezri me ayim Adonai, ose shamayim va'aret.
Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas.
Al yiten namot alecha, al yanum shamchecha.
Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde l'Éternel, Israël.
Hine lo yanum velo yishan, shomer Yisrael.
L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite.
Adonai shomrecha, Adonai tzidecha, al yad yeminecha.
Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit.
Yomam ha-shemesh lo-yakeka ve-yareach ba-layla.
L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme.
Adonai nishmocha mikol ra, nishmor et nafshecha.
L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours.
Adonai nishmor tzetera uvoera me'ata ve'ad olam.
Nous louons ensemble l'Éternel avec le psaume 8, les strophes 1, 2, 3 et 4 dans le psautier. Merci José. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons la volonté de l'Éternel à travers la voix de Jésus. qui rappelle ces deux commandements dans l'évangile de Matthieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et je partagerai ce matin une prière d'un théologien qui est de notoriété publique, un adversaire des protestants, mais qui est venu prêcher ici même, dans ce lieu, à l'oratoire du Louvre. Il s'agit de Jacques Bénigne Bossuet. Et il écrit cette prière à laquelle nous pouvons tous et toutes souscrire. Ô Seigneur, si je t'aimais de toute ma force, par la force de cet amour, j'aimerais mon prochain comme moi-même. Et je suis si insensible à ces mots, pendant que je suis si sensible au moindre des miens. Je suis si froid à le plaindre, ce prochain, si lent à le secourir, si indifférent dans ses biens et dans ses maux. Où est cette ardeur et cette tendresse d'un apôtre Paul qui dit pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, être faible avec les faibles, comme dans le feu lorsque quelqu'un tombe? Ô mon Dieu, si rien de cela n'est dans mon cœur, ni je n'aime mon prochain comme moi-même, ni je ne t'aime de toute ma force et de tout mon cœur. Amen. Mais le Seigneur redit sa grâce sans cesse, et devant nos impossibilités, nos accablements, tout ce qui nous sépare de lui, il nous redit sa grâce, et je vous invite à vous lever pour recevoir cette parole. Il nous dit à chacun de nous, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Amen. Et je vous invite exceptionnellement à vous asseoir pour le moment de la confession de foi afin de l'entendre paisiblement et sans, enfin, en étant complètement libre d'attention. Et cette confession de foi, je l'ai empruntée à une autrice qui est très importante pour aujourd'hui, une autrice qui s'appelle Eti Elysium. Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu. Cette nuit, pour la première fois, je suis restée éveillée dans le noir, les yeux brûlants, des images de souffrance humaine défilant sans arrêt devant moi. Je vais te promettre une chose, mon Dieu, ô une broutille. Je me garderai de suspendre au jour présent, comme autant de poids, les angoisses que m'inspire l'avenir. Mais cela demande un certain entraînement. Pour l'instant, à chaque jour suffit sa peine. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Mais je ne peux rien garantir d'avance. Une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qui nous est possible de faire aujourd'hui. C'est tout ce qui nous est possible de sauver de cette époque. Et c'est aussi la seule chose qui compte un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés des autres. Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation, finalement indissociable de cette vie. Je ne t'en demande pas compte. C'est à toi, au contraire, de nous appeler à rendre des comptes un jour. Il m'apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon cœur que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. Il y a des gens, le croit-on, qui au dernier moment tâchent de mettre en lieu sûr des aspirateurs, des fourchettes et des cuillères en argent, au lieu de te protéger, toi, mon Dieu. Et il y a des gens qui cherchent à protéger leur propre corps, qui pourtant n'est plus que le réceptacle de 1000 angoisses et de 1000 haines. Ils disent « Moi, je ne tomberai jamais sous leurs griffes ». Ils oublient qu'on n'est jamais sous les griffes de personne tant qu'on est dans tes bras. Cette conversation avec toi, mon Dieu, commence à me redonner un peu de calme. J'en aurai beaucoup d'autres avec toi dans un avenir proche, t'empêchant ainsi de me fuir. Tu connaîtras sans doute aussi des moments de disette en moi, mon Dieu, où ma confiance ne pourra plus te nourrir aussi richement. Mais crois-moi, je continuerai à œuvrer pour toi, je te resterai fidèle et ne te chasserai pas de mon enclos. Eti Elysium, morte en 1943, diariste néerlandaise, issue d'une famille juive libérale, morte au camp de concentration d'Auschwitz. Je vous invite à chanter notre foi après cette confession de foi extraordinaire. Je vous invite à vous lever. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir.
Le texte biblique que nous allons lire aujourd'hui est tiré du livre de l'Exode, au chapitre 12, versets 29 à 42. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'au tout premier-né du bétail. Le Pharaon se leva de nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Dans la nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit : Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites aussi. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre petit et votre gros bétail, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi aussi. Les Égyptiens pressaient le peuple. Ils avaient hâte de le laisser partir du pays, car ils disaient « Nous périssons tous ». Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Leurs pétrins étaient enveloppés dans leurs vêtements sur leurs épaules. Les Israélites firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. L'Éternel fit en sorte que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils enlevèrent cela aux Égyptiens. Les Israélites partirent de Ramsès pour Soukhot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Tout un ramassis de gens monta aussi avec eux. Ils avaient un cheptel considérable de petits et de gros bétail. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, et qui n'étaient pas levés, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder et sans avoir fait de provisions pour eux. Le séjour que les Israélites firent en Égypte fut de 430 ans. Au bout de 430 ans, ce jour précis, toutes les troupes de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Ce fut une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites dans chaque génération.
Merci Josué. Je vous invite à chanter maintenant le psaume 118, les strophes 1, 2 et 4. Nous nous levons pour chanter. prions ensemble avec une écrivaine allemande issue elle aussi d'une famille juive libérale et qui était devenue carmélite et qui est morte à Auschwitz en 1942, Edith Stein. Qui es-tu, douce lumière, qui m'inonde et éclaire la nuit de mon cœur? Tu me guides avec ta main maternelle. Si tu me lâches, je n'avancerai plus, même d'un seul pas. Tu es l'espace qui environne mon être et dans lequel tu te caches. Si tu m'abandonnes, je tombe dans l'abîme du rien, d'où tu m'as appelé à l'être. Tu es plus proche de moi-même que moi, plus intime que mon intime même. Et pourtant, personne ne te touche ni ne te comprend, et aucun nom ne peut t'emprisonner. Esprit, Saint, éternel, amour.
Bonjour à tous. Alors, en ce moment, dans les synagogues, nous sommes en train d'évoquer le récit de la sortie d'Égypte dans notre cycle de lecture annuel. Nous sommes à peu près à ce passage. Et donc, j'ai choisi ce matin de vous parler aussi de cet épisode qui est un texte aussi important dans la tradition chrétienne que dans la tradition juive. Donc, comme vous le savez, la Bible peut avoir plusieurs niveaux d'interprétation et plusieurs niveaux de lecture. Et donc, aujourd'hui, je vous propose une lecture plutôt métaphorique de ce récit, dans la mesure où il s'agit d'un mythe fondateur, en particulier pour le peuple d'Israël, puisque c'est la sortie d'Égypte qui a permis ensuite tout le reste de l'histoire. Tout d'abord, comme vous le savez, sans doute, le peuple hébreu était esclave en Égypte, opprimé par le pharaon, avec, bien sûr, une partie du peuple, en tout cas, qui participait à cette oppression. Et donc, les gens étaient réduits en esclavage. Il y a eu un décret de pharaon qui demandait à ce que tous les premiers-nés garçons soient jetés au Nil. Ainsi, tout un lot d'épreuves pour les Hébreux dans cet esclavage, et une oppression qui a fait que leur cri s'est élevé vers l'Éternel. L'Éternel a entendu ce cri et a donc envoyé Moïse, donc, qui était un homme qui avait grandi dans la noblesse égyptienne, mais qui était issu donc du peuple hébreu, libérer le peuple hébreu, alors qu'à l'époque, Moïse était en Madian, donc assez loin, finalement. Et ensuite, lorsque Moïse vient, il se présente avec son frère Aaron devant Pharaon pour lui dire « Libère mon peuple ». Pharaon refuse. Et l'Éternel n'est pas forcément complètement étranger à l'obstination de Pharaon, si on regarde bien le texte biblique. Mais toujours est-il que, pour que la libération puisse advenir, l'Éternel va susciter des signes qui sont assez fantastiques, dont les fameuses 10 plaies d'Égypte que vous connaissez, pour donc convaincre Pharaon de laisser sortir le peuple hébreu, même si, d'un autre côté, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et on peut se demander, pourquoi tous ces signes? Pourquoi 10 plaies sur l'Égypte? On a eu donc le Nil changé en sang, un amas de grenouilles qui envahissait tout le pays, on a eu des sauterelles, de la grêle, etc. Peut-être ces plaies étaient-elles nécessaires comme des signes pour montrer aux Hébreux que leurs ennemis pouvaient être mis en échec, qu'une libération était possible. En effet, la première étape pour sortir d'une situation d'esclavage et d'oppression, c'est de croire qu'une sortie est possible, que l'ennemi ou l'adversaire, ou parfois même nos barrières intérieures, ne sont pas invincibles, mais peuvent être baissées. Ainsi, ces plaies peuvent être lues comme des signes pour les Hébreux que toutes leurs étroitesses intérieures et extérieures pouvaient être mises en échec. En effet, en hébreu, le mot Mitzrayim, Égypte, a la même racine que le mot Tsar, qui signifie étroit. Cela pourrait indiquer que l'Égypte, symboliquement, métaphorise tout ce qui nous enserre, tout ce qui nous met dans une situation d'étroitesse. Et cela peut être des facteurs très très différents. Mais une fois que les Hébreux ont pu réaliser que ces étroitesses, ces barrières, ces limites n'étaient pas invincibles, qu'une libération était possible et allait pouvoir survenir à un moment donné, encore fallait-il que les conditions soient réunies pour qu'ils puissent en effet s'en aller. Et cela s'est trouvé dans l'extrait que nous avons lu juste avant la prière de Edith Stein, donc à la fin du chapitre 12 de l'Exode, où donc est mentionnée la plaie des premiers-nés, qui a été donc la plus violente et la plus cruelle sur les Égyptiens. Ce qui est intéressant, c'est de noter que cette plaie survient à un moment particulier, au milieu de la nuit. Sachant que d'après le calcul des heures des rabbins de l'Antiquité et aussi de nos jours, la minuit, ce n'est pas une heure fixe, c'est exactement le milieu de la nuit, c'est-à-dire le moment le plus éloigné à la fois du coucher du soleil et à la fois du lever du soleil, le point qui est entre les deux, là où les ténèbres sont les plus profondes finalement, et où la lumière semble le plus éloignée. Peut-être cela implique-t-il que pour pouvoir vraiment se libérer de toute situation d'étroitesse ou d'oppression, il faut d'abord se confronter à ces ténèbres intérieures. D'abord plonger dans les recoins les plus obscurs de soi-même et aussi les plus mystérieux parfois, là où il n'y a pas de lumière, où on ne discerne pas grand-chose. Il faut se confronter à ces zones d'ombre, à ses propres limites, à ses propres étroitesses, et parvenir à les affronter et à les vaincre à la racine. Peut-être cette plaie des premiers-nés des Égyptiens, Égyptiens Mitzrim, on retrouve cette racine de l'étroitesse, peut-elle, sur un plan métaphorique, symboliser le fait de se confronter à ses peurs les plus profondes, pour pouvoir ensuite s'en libérer et aller vers la liberté. Mais même cela n'est pas encore suffisant. On voit que l'Éternel, avant la plaie des premiers-nés, avait déjà demandé à Moïse et aux Hébreux de faire une préparation qui peut sembler un peu étrange, de réserver un agneau par famille qui devrait être mangé un peu à toute vitesse, avec le bâton de marche à la main, les chaussures aux pieds, la ceinture mise, en gros, de manger cet agneau avec du pain qui n'était pas levé, des herbes amères, un peu en vitesse, en étant prêt à partir à tout moment. Cela peut indiquer que quand on s'apprête à sortir d'une situation qui était oppressante pour aller vers l'inconnu, eh bien, il y a sans doute des réserves à faire. Et cela pouvait être indiqué par le fait de manger cet agneau en famille, tous ensemble, pour se donner du courage, se donner des forces, avant d'affronter le grand saut dans l'inconnu en sortant d'Égypte. Et c'est ce qu'il se passe, puisque très rapidement, en pleine nuit, les Hébreux s'en vont à toute vitesse. Cette notion de hâte est encore accentuée dans le texte par le fait que le pain n'avait pas eu le temps de lever, sur lequel on insiste un peu. Ce qui peut noter aussi que pour partir, quitter l'oppression, cheminer vers sa liberté, il faut être prêt à faire une rupture dans les actes routiniers du quotidien. La routine a quelque chose de rassurant et même d'un peu nécessaire pour structurer son quotidien. Mais elle peut aussi être un peu enfermante parfois. Et si on veut vraiment sortir, quitter une certaine situation, il faut se tenir prêt à interrompre cette routine, à opérer une rupture dans le quotidien, le temps ensuite de pouvoir retrouver un équilibre. Et c'est effectivement ce qui se passe ici. Car aussi, les occasions de se libérer souvent sont fugaces et ne peuvent pas permettre d'attendre comme le pain qui lèverait en prenant tout son temps. Ici, c'est maintenant et pas une minute plus tard que les Hébreux devaient partir, parce qu'une minute plus tard, ce serait trop tard. Pharaon aurait déjà réfléchi, changé d'avis et décidé de ne pas les laisser partir. D'ailleurs, nous voyons dans la suite du texte qu'il ne tarde pas à tous les poursuivre avec sa cavalerie, dont les Hébreux avaient vraiment intérêt à se dépêcher. Cette notion d'être en permanence prêt au départ, prêt au grand saut dans l'inconnu, lorsque l'on doit se libérer d'une situation difficile, d'une situation d'oppression, peut faire écho à un autre passage dans le Talmud de Babylone au sujet du Messie. Comme vous le savez, dans la tradition juive, le Messie, on l'attend encore. Qui sait quand il arrivera? Et donc, nous avons un texte du Talmud de Babylone qui nous dit qu'en fait, le Messie, finalement, est déjà là, parmi nous, caché quelque part. Et plus précisément, d'après ce texte, donc, qui date de l'Antiquité, aux portes de Rome, parmi les indigents, les plus pauvres et les gens malades, en quelque sorte. Et donc, on nous dit que les indigents, donc, qui sont aux portes de Rome, qui ont tous plus ou moins des blessures et des bandages, lorsqu'ils refont les bandages, ils les enlèvent tous ensemble, et puis ensuite les refont tous ensemble. Et on nous dit, le Messie est parmi eux, mais lui ne fait pas pareil. Il en enlève un et le refait immédiatement. Et puis il en enlève un autre et le refait immédiatement. Pourquoi? Au cas où, d'une minute à l'autre, ils reçoivent un appel de l'Éternel qui lui disent « Bon, on a besoin de toi, pars et accomplis ta mission. » Ainsi, ce Messie doit être en permanence prêt à venir eh bien, libérer le peuple hébreu, comme l'a fait Moïse à l'époque de Pharaon. Peut-être cela vient-il nous dire que nous avons tous un Moïse intérieur, un guide intérieur, qui se tient prêt quelque part à nous aider à sortir de nos propres limites, pourvu que nous l'appelions. Et peut-être donc devons-nous être sensibles à cette capacité que nous portons en nous quand nous nous croyons ou nous nous pensons enfermés dans des situations difficiles à nous en sortir, car nous avons en nous cette capacité. Et lorsque nous la laissons s'exprimer, en plus, elle peut aider et inspirer d'autres personnes autour de nous. Puisque nous voyons dans le récit de la sortie des Hébreux d'Égypte qu'il y a une grande multitude qui les accompagne, une multitude d'Égyptiens qui peut-être eux aussi subissaient une forme d'oppression de la part des plus puissants et qui se sont donc joints aux Hébreux pour eux aussi tenter leur chance, faire ce grand saut vers l'inconnu et sortir de la pauvreté et de l'oppression. Ainsi donc, pour tout le monde, on vous souhaite que ce Moïse intérieur puisse s'exprimer, vous permettre de sortir des situations d'oppression et d'inspirer aussi les autres autour de vous à travailler sur eux-mêmes et sur leur entourage pour gagner leur liberté, même si, comme nous le savons, c'est un processus long et difficile qui peut prendre toute une vie. On voit que les Hébreux, ça leur aura pris quand même une bonne quarantaine d'années dans le désert avant de vraiment pouvoir atteindre leur terre promise.
Merci David pour cette méditation musicale qui fait écho à la parole, à l'enseignement que nous a donné aujourd'hui Josué sur cet appel à la libération. Je vous invite à chanter ensemble le psaume 107, louez Dieu pour sa grâce. Les strophes 1, 2, 3 et 4.
Thank you.
Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons partager des annonces ce matin. C'est Victoire qui fait partie du conseil presbytéral de cette église qui va partager avec nous les annonces. Bonjour Victoire.
Merci Béatrice. Bonjour à tous et à toutes. Quelques annonces donc pour la semaine à venir. Et tout d'abord, merci encore à Josué pour ce matin, pour sa prédication. Et vous pourrez également retrouver l'exposé donné lors du brunch libéral d'hier sur la place de Dieu dans les épreuves de la vie, qui sera disponible sur notre site.
Dès que possible.
Dès que possible. Et également, vous pouvez retrouver un texte de Josué dans notre feuille rose, intitulé donc la feuille rose Jésus, Fils éternel de Dieu ou Fils du Dieu éternel. Et Josué nous propose un texte sur Jésus dans le judaïsme et la question du Messie. Pour les activités de la semaine, donc vous pouvez retrouver les cours de grec et les cours l'atelier de peinture lundi. Et mardi, vous pourrez retrouver Béatrice pour trois moments. Le premier, le culte d'intercession avec la Sainte Cène qui aura lieu au temple à partir de 12h30. Et puis ensuite, vous êtes invité à un déjeuner convivial à la maison presbytérale avant de pouvoir avoir un partage biblique avec une invitée pour l'occasion sur le thème des villes réelles et fictives de la Bible, la ville au cordeau. Je te laisse t'en
voilà.
dire.
Alors, nous sommes rencontrés avec Béatrice Margueron, qui est archéologue, et nous nous sommes rencontrés ici même lors d'une cérémonie pour son mari Jean-Claude Margueron, qui est un spécialiste des villes du Moyen-Orient très ancien, et qui avait donc fait énormément de fouilles, notamment auprès de la ville de Marie, et donc qui connaît très bien toutes ces villes qui se sont implantées autour de l'Euphrate. Et donc on a la chance de rester en contact aujourd'hui, et étant en train de terminer un livre qui avait été commencé avec Jean-Claude sur l'architecture des villes très anciennes, les villes mésopotamiennes. Il m'a semblé très à propos de lui demander son éclairage sur ces questions d'architecture dans les villes, et puisque nous sommes dans un cycle sur la question des villes dans la Bible, et dans la Bible il y a beaucoup d'endroits où l'on parle des mesures de la ville et des proportions des villes, et donc de leur architecture aussi et de leur urbanisme, et donc il me semblait que c'était la personne idéale pour venir nous en parler, et elle a accepté très gentiment de le faire, et donc elle sera là avec nous mardi pour parler avec nous de ce qu'elle peut nous apporter de ces lumières d'archéologue que nous n'avons pas forcément. Voilà, merci.
Et donc merci, n'hésitez pas à les rejoindre pour le partage biblique à partir de 14h15.
Voilà, c'est aux 4 rues de l'Oratoire, la maison presbytérale, et vous êtes toutes et tous évidemment bienvenus, et là aussi, pas besoin de vous inscrire ou de demander quoi que ce soit d'autorisation, vous êtes les bienvenus.
Voilà. Et ben, du coup, je vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine, et ça va être le moment de l'offrande.
Alors, tu verras bientôt, ça sortira tout seul, et tu diras donnez le cœur joyeux, car c'est Dieu qui nous donne tout. Voilà.
Merci.
Je vous invite à participer à l'offrande. Thank you. Merci encore à David Cassan qui est avec nous ce matin pour ce culte et qui a accompagné tous ces moments de prière et de chant. Je rajoute juste une petite annonce qu'on vient de me préciser. Demain, il y a un cours de dessin le lundi ici à la Maison Presbytérale, aux 4 rues de l'Oratoire. Et demain, il y aura une projection proposée par Jean-Jacques Néret, qui est une personne qui met au point des pièces de théâtre et qui a donc qui va projeter un document se rapportant aux femmes enfermées dans la tour de Constance. Alors, on est encore dans la question de la libération, mais alors là, pour le coup, ça c'est pas tout à fait passé avec beaucoup d'espérance. Il proposera cette projection demain après-midi aux alentours de 13h, je crois, donc à la Maison Presbytérale, si vous souhaitez participer et rencontrer ce groupe de peintres et dessinateurs qui se réunissent tous les lundis matin et parfois pour des conférences lundi après-midi. N'hésitez pas. Voilà. Je vous invite à la prière. Éternel, nous sommes ce matin dans l'amitié, dans la paix, dans l'accueil mutuel d'une parole qui traverse toutes nos confessions, nos religions, une parole qui annonce ton amour aux êtres humains, une parole qui leur annonce qu'il est possible de vivre dans la paix les uns avec les autres, et de faire connaissance avec ce qui anime chacun. Éternel, permet que cette amitié et cette paix, nous repartions d'ici avec, dans notre cœur, et que nous puissions la diffuser là où nous travaillons ailleurs que dans ce temple, là où nous rencontrons toutes celles et ceux de ce monde qui ont besoin de cette parole, qui ont besoin de croire que cette paix et cette amitié sont possibles. Nous te prions, Éternel, pour Israël et pour Gaza. Nous te prions pour eux, pour ces personnes meurtries par tant d'années de conflits et de haine, tant d'années d'essais de paix, tant d'années où des hommes et des femmes de bonne volonté ont essayé de faire vivre ensemble deux peuples pour qui l'incompréhension a souvent dominé. Éternel, nous te demandons ta paix dans ce lieu si emblématique pour nous qui recevons toutes ces paroles du Premier Testament et du Second Testament. Cette région du monde où les religieux convergent pour venir te sentir plus près, te trouver plus près d'eux, et où pourtant la violence fait rage. Éternel, éclaire-nous et permets que nous soyons capables, dans le conflit qui est toujours inévitable dans nos vies, de trouver des voies de sortie où chaque personne, chaque point de vue puisse être entendu à sa juste place, à sa juste valeur. Éternel, nous te prions pour que nous soyons ensemble porteurs de libération, que nos propos, notre façon d'annoncer ta parole, notre langage religieux, notre façon de réfléchir en théologie, puisse ouvrir des portes plutôt que les fermer, puisse permettre à chacun de faire son chemin avec toi, sans qu'aucune institution ecclésiale, sans qu'aucune institution religieuse ne vienne se mettre entre toi et le croyant. Éternel, nous sommes nombreux ici à être entrés dans une église, une synagogue, une mosquée, un temple pour chercher ton image. Permets que nous puissions être de ceux qui aujourd'hui accueillent celles et ceux qui cherchent, et que nous ne soyons jamais de ceux qui sont déjà arrivés au bout du chemin en croyant qu'ils ont trouvé la vérité sur toi. Tu es éternel, la vérité en nous permet que nous puissions ne pas vouloir te posséder, t'emprisonner et t'enfermer dans nos dogmatiques, dans nos doctrines. Éternel, nous te demandons ton amour, qu'il soit dans chaque cœur ici même, pour toutes celles et ceux qui ont besoin de le sentir en ce moment même, dans leurs épreuves, dans leurs difficultés de vie, dans leur incapacité à trouver la liberté. Éternel, libère-nous. Fais-nous passer de nouveau cette mer immense de tout ce qui nous sépare de toi. Et ensemble, nous pouvons te dire avec confiance cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, cette halte bénie va s'achever maintenant, mais vous allez emporter avec vous cette bénédiction que Dieu vous adresse, car l'Éternel bénit chacun, quel que soit son parcours de vie, quelles que soient ses expériences, quelle que soit sa recherche, quels que soient ses doutes. Dieu bénit chacun et chacune ici aujourd'hui. Que cette assurance vous accompagne. J'ai demandé à Josué de me rejoindre pour ce moment de bénédiction. Merci encore, Josué, d'être venu avec nous. Le Seigneur vous bénit et vous garde dans son amour. Il est l'Éternel. Tournez votre regard vers lui et il répondra à votre appel. Amen.